thème de ma prédication, le syndrome de l'église. Alors vous allez me dire, bah Fred, c'est un peu bizarre comme titre. Oui, c'est bizarre comme titre. Mais vous savez, j'aime bien cogiter dans certains moments où on n'est pas forcément sur un domaine spirituel, mais il y a des moments où on aime bien comme ça réfléchir à certaines choses. Et là, je ne vous cache pas que j'ai réfléchi à l'hélice au moment où je tondais mon gazon. Ça va, ça vous surprend, non? Et là, vous allez me dire, mais Fred, qu'est-ce qu'il y a de spirituel dans le fait de tondre son gazon? Oui, parce que forcément, bah, quand il y a une tondeuse, vous avez une hélice. Et qu'est-ce qu'elle fait l'hélice? Elle tourne. Qu'est-ce que fait l'hélice? Elle coupe. Qu'est-ce que fait l'hélice? Elle fait beaucoup de choses. Et on va revenir sur tous les détails de l'hélice. Et pour moi, le syndrome de l'hélice, alors même si le terme de syndrome, ça peut être un peu négatif, parce qu'on pourrait penser une maladie, c'est pas une maladie. Mais le syndrome de l'hélice, ça va beaucoup plus loin que ça. Et je voudrais faire une prédication ce matin, un peu second degré. Restez second degré. Je ne vais pas vous traiter d'hélice. D'accord? Je ne vais pas vous dire que vous êtes des hélices. Mais il y a des caractéristiques de l'hélice qui peuvent très bien être spirituelles. Et là, j'ai 10 amens qui viennent de pousser, là. Super. Tout d'abord, voilà. Il faut savoir que, je vais te demander, Pierre, comme ça, on va gagner du temps. Le temps que... quand on parle d'une hélice, et vous voyez, quand j'ai mis la petite vidéo au fond, là, c'est... Tout le monde sait ce que c'est, là, cette hélice qu'on voit tourner, cette double hélice. C'est de l'ADN. De l'ADN. Et en fait, l'ADN, c'est pour moi la première des hélices que vous devez avoir pour laquelle vous devez avoir conscience. Et qu'on doit avoir conscience. C'est-à-dire qu'on a tous un ADN, et vous nous avez déjà entendu parler maintes et maintes fois sur l'ADN dans l'Église. On a tous un ADN. Si on est ici ce matin, c'est parce qu'il y a quelque chose qui accroche. Vous savez, les scratchs qu'on a sur les chaussures, on aime bien, ça accroche, ça fait cric quand on les enlève. Là, c'est pareil, on a quelque chose qui s'accroche. Donc l'ADN, est-ce que ça va? Vous savez ce que veut dire ADN? Oui, bon, à part les infirmiers et les soignants, et médecins, et etc. Ouais? Dis-le. Super. Acide désoxyribonucléique. Moi, je me suis, quand j'ai fait mes études de délégué médical, on s'est longtemps entraîné à acide désoxyribonucléique. Alors, au début, vous fourchez, mais voilà. Donc, vas-y, tu peux cliquer là, Pierre, une fois. Je vais essayer de me connecter parce que ce serait pas mal. Et une de seconde fois. Donc, l'acide désoxyribonucléique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ADN, en fait? L'ADN, c'est tout, tout petit. Vous avez ça dans votre corps. C'est-à-dire que si vous, là, tu peux cliquer une deuxième fois. Si vous prenez un animal, quel qu'il soit, ou un être vivant, ou quoi que ce soit, eh bien, forcément, quand vous allez partir et que vous allez fouiller avec un microscope, vous allez prendre le noyau. Dans le noyau, vous avez les chromosomes, et dans le chromosome, vous avez l'ADN. L'ADN, c'est vraiment tout ce qui est petit, et c'est ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Et donc, là, forcément, c'est une hélice. Et donc, vous avez tous les chromosomes. Je crois qu'il y a 21 paires, ouais, 21 paires, je crois, de chromosomes, hein, c'est ça? 21 paires de chromosomes. Je regarde mes enfants, enfin, c'est bien. Oui, ils ont bien appris leur leçon. Mais s'il y a quelque chose qui déraille là, eh bien, forcément, eh bien, vous n'êtes plus le même que vous êtes aujourd'hui. Ou si vous avez quelque chose qui n'est pas conforme à ce que vous êtes aujourd'hui ou qui va bouger un petit peu, votre ADN va changer. Et je pense clairement que nous avons aujourd'hui l'ADN de Jésus-Christ en nous. On a tous, si on est là ce matin, c'est pas parce qu'on s'est dit, tiens, il fait beau ou il fait pas très beau, parce que souvent c'est quand il fait pas beau qu'on vient à l'église, des fois, hein, pas ici, hein, dans les autres églises, mais quand il fait pas beau, on dit, tiens, je vais à l'église. Mais non, c'est pas ça. C'est tout simplement parce que là, on a quelque chose qui brûle en nous, et c'est tout simplement l'ADN que vous avez en commun avec Jésus-Christ. Parce que la parole nous dit que nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ, nous sommes frères avec Jésus-Christ, et nous avons un Père, tous communs, c'est Dieu. Et donc là, eh bien, on a notre ADN, notre hélice qui est en train de tourner avec tous nos chromosomes spirituels qui font qu'aujourd'hui, on est là, ce matin, on a envie d'aller plus loin. Et quand je disais tout à l'heure que je vais prendre l'exemple de Sergio, c'est parce qu'il a lui déjà cet ADN qui est là. Il a cet ADN, il avait même cet ADN avant de naître, puisque c'est constitué déjà dès le sein de la mère, le chromosome, enfin l'ADN. D'accord? Ça va très très loin. Mais en plus... il a l'ADN du royaume, c'est-à-dire qu'on a tous cet ADN et on est des milliards de chrétiens sur Terre. On est des milliards de chrétiens sur Terre. Et on a cet ADN et on pourrait faire bouger les choses comme ce n'est pas permis. Parce qu'on a déjà cet ADN. Donc ça, c'est une première caractéristique que je voulais vous donner par rapport à ça. On va lire je vais prendre juste les différents items de... Ah, t'as dû cliquer deux fois. Bon, c'est pas grave. Cette image-là, Benoît, une crise de foi, ça se soigne. Je pensais qu'elle était juste après ce que j'allais vous dire là, mais aujourd'hui, on a tous cette foi. Et je voulais donner d'abord toutes les caractéristiques de l'hélice. Je vais vous les donner, on va les regarder juste après, mais c'est la dia juste après. Mais avec l'hélice, en fait, quand j'étais l'autre jour avec ma tondeuse, je me suis dit, mais quelle belle invention qu'est le fait d'avoir une rotation comme ça, comme la roue. Et vous savez que la roue, c'est l'une des plus belles inventions de l'homme, même si elle n'est pas dans les 10 premières, mais c'est l'une des plus belles inventions de l'homme. Et aujourd'hui, grâce à une roue, on est capable de faire des choses qui sont énormes. C'est-à-dire que quand vous prenez une hélice, eh bien, vous avez la possibilité de propulser quelque chose. Vous avez la possibilité d'élever quelque chose de très lourd, comme un hélicoptère, par exemple. Vous savez qu'un rotor, c'est une hélice. Et en fonction de l'orientation des pales, eh bien, vous allez soulever l'hélicoptère. Vous avez la possibilité de couper, comme je parlais tout à l'heure de la tondeuse. Vous avez la possibilité de propulser un appareil quel qu'il soit, comme un avion de chasse, par exemple. Vous avez la possibilité d'aspirer, de souffler. L'hélice a un nombre de caractéristiques qui sont assez importantes. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, là, quand je vous dis comme ça toutes ces caractéristiques, vous me dites, mais Fred, pourquoi tu nous donnes tout ça? Parce que je vais rester toujours dans ce second degré qui est là. Quand on a, en tant que pasteur, cette envie toujours, et on en parlait encore lundi avec Antoine, c'est que la vision de l'Église, c'est de pouvoir aussi propulser des personnes. C'est-à-dire que dans l'Église, on a des gens qui ont des talents et on veut aller plus loin avec eux. Et forcément, eh bien, si on prend, par exemple, moi je suis une hélice et qu'à côté de moi j'ai une hélice Antoine, on n'aura pas la même caractéristique. Peut-être qu'Antoine va plus être quelqu'un qui va pousser ou propulser, et moi je vais peut-être être plus quelqu'un, ou même si on prend les deux ministères qui sont Antoine et Thierry, Antoine va être quelqu'un qui va propulser, donc ses pales vont être tournées dans l'autre sens, il va propulser les gens. Pourquoi? Parce qu'il a un cœur apostolique également. Et puis quand on prend un évangéliste comme Thierry, ben Thierry, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, en tant qu'hélice, il va aspirer. Il a envie, lui, il veut aller dehors, il veut aller voir les gens qui sont perdus, et il veut pouvoir faire une rotation et pouvoir faire en sorte que les gens soient aspirés vers Dieu. Si, Pierre, on va mettre les caractéristiques comme ça, on les aura sous les yeux. Mais vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez dans quel sens je vous dis que je suis le second degré aujourd'hui? C'est que lorsque l'autre jour j'étais avec ma tondeuse, je me suis dit, mais bon sang. Si on prenait vraiment toutes les caractéristiques du royaume de Dieu, et chacun de ceux qui font partie de l'Église, on a tous des caractéristiques qui sont différentes. On a tous des caractéristiques qui sont différentes. Vous savez que quand on a des personnes qui viennent nous voir et qui nous disent ben, moi, j'aimerais prêcher. Parce qu'on a pas mal de personnes qui viennent nous voir en disant ben, moi, Fred, j'aimerais prêcher. Vous savez que dans un ministère, le fait de prêcher sur l'estrade, c'est une petite partie d'un ministère. Quand on prend le ministère d'un pasteur, c'est une petite partie le fait de prêcher. Quand vous prenez un évangéliste, même quand il prêche, quand Thierry prêche, c'est une petite partie de son ministère. Parce que Thierry, lui, va bien évidemment apporter une prédication où il va vous exhorter à vraiment vous rapprocher de Jésus ou à donner votre vie à Jésus en fonction de votre situation. Mais ce qu'il veut surtout, c'est pouvoir aller à l'extérieur, pouvoir aller chercher les personnes qui sont là. Et c'est pour ça qu'on va revenir sur les dons. Ça va être la dia suivante, Pierre. Tant pis pour la dia. Donc, Éphésiens 4, au verset 11 et 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre, du ministère et de l'édification du corps de Christ. Clairement, ce passage de la Bible, il est merveilleux, parce que là, on a toute une structure. On nous dit, voilà, l'Église, elle est structurée. Pourquoi? Parce que chacun va avoir sa caractéristique en tant qu'hélice, et il va pouvoir apporter et édifier le royaume de Dieu. On est d'accord avec ça? Vous êtes toujours avec moi? Sauf que souvent, il y a beaucoup qui s'arrêtent là-dessus, qui disent, ben moi, voilà, Éphésiens 4, j'aime bien. Alors, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, alors lequel je vais choisir, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et comme docteurs. Ah, j'avoue que ben, prophète, c'est pas mal, hein. J'aimerais bien être, moi, je vais, Seigneur, fait. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi? Parce que, avant que tu ne sois créé, Dieu a mis en toi une hélice. Et ton hélice n'est pas la même, moi mon hélice n'est pas la même que celle d'Antoine, ou que celle d'Alex, ou que celle de Thierry. C'est pour ça qu'on se complète. Il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir en disant, mais dans l'équipe pastorale, à l'église, on voit que vous êtes vachement soudés. Oui, on est soudés. Pourquoi? Parce qu'on se complète. Quand on est tous les quatre et qu'on parle ensemble, quand on, là, le lundi, on est souvent le matin ensemble, eh bien, quand on parle, on sent qu'on a envie de trucs. On est là, on expose des projets, on expose des choses. Et puis, il y en a un qui va donner son point de vue, il va donner des arguments pour que l'autre puisse les accepter. Et l'autre va dire, bah oui, mais moi, je ne voyais pas comme ça. Mais oui, mais bon, mais regarde que... Et en fait, toutes nos caractéristiques en tant qu'hélice vont arriver en commun accord pour devenir un engrenage. D'accord? Et c'est ça l'Église. C'est-à-dire que quand vous venez nous voir, montrez-nous ce que vaut votre Église. Votre hélice, pardon. C'est un lapsus révélateur, ça, non? Montrez-nous ce que vaut votre hélice. Montrez-nous dans quel sens est-ce que vous êtes une tondeuse? Est-ce que vous êtes un hélicoptère? Vous êtes un avion à réaction? Des hélices, on peut en citer des tas et des tas. Il y en a partout, des hélices. Regardez bien, il y en a partout, des hélices. Et des chrétiens, il y en a partout aussi. Il y en a tous nos caractéristiques. Et donc là, je vous ai donné ce passage-là. Vas-y, Pierre. Et si on prend l'autre passage qui est dans Corinthiens, donc 1 Corinthiens, on va le lire, vous êtes le corps de Christ. Déjà, ça commence bien, vous ne trouvez pas? Qui est-ce qui fait partie du corps de Christ ici? Ouais? Alors, tout à l'heure, on n'a pas demandé, mais a priori, tout le monde est déjà venu ici. Il n'y a personne qui est là pour la première fois? Non? Il n'y a personne qui nous visite? Non? On est tous des... Ouais? On est tous, entre guillemets, des habitués? Allez. Et donc, on est le corps de Christ. On est le corps de Christ. On fait partie de l'Église. Donc, l'Église, c'est le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le... Ensuite, dans Éphésiens, on n'a pas dit qu'il n'y avait que les cinq. Ensuite. Mais la Bible se contredit? Non. Pourtant, c'est bien marqué ensuite, là. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Ou sont-ils prophètes? Ou sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Et pourtant, vous êtes le corps de Christ. Est-ce que ça veut dire que nous sommes tous dans le ministère? Parce qu'à partir du moment où tu parles en langue, tu es dans le service pour l'Église. Pourquoi? Parce que quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même et tu édifies l'Église. Pour le peu qu'à côté de toi, il y a l'hélice qui a la particularité ou le talent d'interpréter ta langue, là on édifie encore plus l'Église. Pour le peu qu'on ait quelqu'un ici qui prophétise et qui vienne donner des prophéties ou qui vienne te voir pour te dire « voilà, Dieu me dit que pour toi, tac, tac, tac », est-ce que ce n'est pas un service dans l'Église? Parce que je vous rappelle que ministère, ça veut dire service. Alors là, je suis parti en parallèle sur une voie. La parallèle, c'est tout simplement la parallèle de la voie que Antoine nous a partagée dimanche dernier. Est-ce que tout le monde se souvient de la prédication de la semaine dernière? Bon, ok, d'accord. Levez la main si vous en souvenez, ou je ne sais pas... Ne me laissez pas tout seul sur l'estrade. Antoine nous a parlé du principe d'être des adorateurs. D'être des adorateurs. C'est merveilleux. On est tous des adorateurs. Pourquoi? Parce qu'on fait tous partie du corps de Christ. On est tous des adorateurs. Pourquoi? Parce qu'on apporte quelque chose pour édifier. On est là, on a envie. Et on a envie quoi? On a envie de louer notre Dieu. C'est-à-dire que si vous êtes ce matin ici à l'église, c'est pas... Alors oui, en partie, mais ce n'est pas que pour venir faire une bise. On n'a plus le droit aux bises en ce moment, mais ce n'est pas pour aller claquer une bise à ton voisin. C'est parce que tu as dans ton cœur de pouvoir servir Dieu, de pouvoir aller et dire, voilà, Seigneur, moi, tu m'as mis dans mon cœur ça. Eh bien, j'y vais. Je voulais le faire tout à l'heure, mais ça, à la limite, le moment est approprié. On a chanté un chant tout à l'heure qui est très, très fort, ce chant. Mais je pense qu'ici, on a tous chanté. Alors moi, le premier, j'ai chanté. Je le reconnais, j'ai chanté. Donc, j'avoue, j'ai chanté les paroles de ce chant. D'accord? Maintenant, je ne vais pas vous demander à tous d'avouer, mais bon. Quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Moi, je l'ai chanté ça ce matin. Ouais. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Je cède à toi. C'est chaud comme phrase, non ? Je cède à toi. Est-ce que tu es prêt, lorsque tu viens voir une personne dans l'église, quelle qu'elle soit, que ce soit quelqu'un de l'équipe pastorale, ou en disant, voilà, moi j'ai envie de ça, ou ça, ou ça, est-ce que tu es prêt à dire à Jésus, je cède à toi ? Je suis prêt à payer un prix. J'ai envie de pouvoir dire, Seigneur, si j'avance avec toi, c'est parce que je veux plus de toi, mais pour ça, j'ai besoin de payer un prix. Vous avez déjà payé une partie du prix parce que ce matin, vous êtes là. Vous n'êtes pas resté à faire la grâce matinée ou à regarder certaines églises sur YouTube. Merci. Attention, je ne dis pas que c'est mal. Mais il faut que ce soit ponctuel. C'est-à-dire qu'on a besoin de vous ici à l'église. On a besoin de tous. On a besoin qu'on puisse être le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ça va ? Je ne vous assomme pas trop là ? Je vous sens que je vous assomme là. Ouais, on va se dégourdir un peu, non, ça va ? Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi. Laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Ouais, je l'ai chanté. Moi, je reconnais, je l'ai chanté. Et c'est vrai qu'on a tous envie de ça. On a tous envie de ça. On a tous envie d'aller plus loin. Mais pour ça, il faut parfois changer certaines habitudes. Certaines habitudes sont à changer. Vous savez, vous savez que j'aime bien c'est mon fils qui m'a fait connaître ça, mais les citations d'Albert Einstein, j'aime bien. Il a dit des choses tellement sensées, Albert Einstein. N'essaie pas de devenir un homme de succès, essaie plutôt de devenir un homme de valeur. Vous savez que parfois, quand vous êtes sur une estrade, certains aspirent à ça, parce que c'est vrai qu'on est au devant, et croyez-moi, il y a quand même un stress qui est là. J'ai pas envie de vous dire des âneries, j'ai pas envie de vous faire de mal, j'ai envie de vous exhorter, de faire en sorte que vous puissiez grandir. Mais c'est vrai que vous, parfois, eh bien, vous pouvez très bien dire, bah, Fred, et il y en a qui me le disent, Fred, c'est vrai que tu te sers de l'humour quand tu prêches, c'est très bien structuré, tes prêches, etc. Je dis pas ça pour me gargariser, je m'en fiche, c'est pas le but. Mais n'aspirez pas forcément à la prédication, aspirez au résultat, au fruit de la prédication. Si moi, ce matin, je vous prêche et que, quand vous sortez, vous n'êtes plus capable de dire « Mais Fred, il a prêché sur quoi ? J'ai raté mon but. J'ai raté mon but. Et pourtant, croyez-moi que j'ai prié. Croyez-moi que je me suis mis devant Dieu. Croyez-moi que j'ai passé du temps à pouvoir dire « Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que j'apporte à l'Église ?» Et moi, ce que je veux ce matin, c'est que vous puissiez avoir le cœur grand ouvert. Et moi, le premier, parce que je l'ai toujours dit, je le dirai toujours, mais je prêche d'abord pour moi. Pierre. Deuxième citation d'Einstein, celle-là je l'ai notée. La folie, c'est de se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. C'est peut-être pas bien de prêcher sur Albert Einstein. Ça va, vous m'en voulez pas ? Non ? Non ? Oui, c'est de la folie de se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Si vous saviez le nombre de personnes, des fois, qui viennent vous voir pendant des semaines et des semaines et des semaines en disant « Mais j'ai toujours ce problème-là, j'ai toujours ce problème-là. » Et puis vous, vous êtes en train de l'exhorter en disant « Mais oui, mais si tu faisais ça ou ça ou ça, voilà, peut-être que ça changerait. Ou si tu changeais ta façon de vivre, ça changerait. » Et puis, de semaine en semaine, moi, je me souviens, il y avait un couple qui était toujours avec le moral dans les chaussettes. Il venait toujours me voir. Et je leur donnais des préconisations, je leur disais, voilà, maintenant, la prochaine fois qu'on va se voir, vous allez, d'aujourd'hui jusqu'à la prochaine fois, vous allez faire ça, ça, ça et ça. Et puis, ils revenaient là à la fois après, et puis ils me disaient, ben non, on a toujours... Je lui dis, mais vous avez fait ce que je vous ai demandé de faire ? Ben non, parce que... La folie, c'est de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. La troisième, quelle heure il est ? -20 ? Oula, faut que j'accélère. Comment je vais me faire gronder par Antoine. Action-réaction. Ça, c'est la troisième, comment je pourrais dire, mais la troisième déclaration d'Isaac Newton. Déclaration ou constatation, ou ce que vous voulez. Action-réaction. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites une action, il y a une réaction. Si je me mets, j'ai vu ça sur YouTube quand j'ai travaillé mon prêche, mais vous prenez, vous mettez sur un petit rail, vous avez un gros poids sur vous, si vous jetez le poids, votre rail va reculer. Ça va, ça vous parle? C'est-à-dire que l'action, ça va être de jeter le poids, un gros poids. La réaction, c'est que mon rail va reculer. Alors qu'on pourrait très bien penser que, ben non, c'est mal foutu. Moi, si je suis sur mon rail qui est sur roulette, si je jette mon poids, je reste sur place. Eh ben non. Action, réaction. C'est-à-dire que d'un point de vue spirituel, c'est exactement la même chose. Action, réaction. Si tu veux que les choses bougent, bouge. Si tu veux que les choses changent, change. Ça, vous faudra le noter. Je vais le noter. Fred Pouliquen qui a dit s'il voulait que les choses bougent, bouge. S'il voulait que les choses changent, change. Fred Pouliquen. Alors, c'est vrai que parfois, on peut très bien se dire, mais oui, mais moi, je suis dans l'église et je travaille et il ne se passe rien, etc. Si, il se passe des choses. Vous savez, je vais vous donner un petit témoignage. Je pense que tu ne vas pas m'en vouloir, Nicolas, je vais parler de toi. T'es beau, mon fils. Nicolas vient de faire un stage pendant un mois au Chronodrive d'Aubourdin. Vous savez, les Chronodrive, vous faites une commande sur Internet. Non, mais t'en vas pas, j'ai pas parlé de toi, Nadia. Mais vous faites votre commande sur Internet et puis vous allez, vous ouvrez le coffre de votre voiture et ils viennent vous charger votre voiture et vous repartez. Et vous avez vos courses, c'est top. Nous, c'est Pascaline qui fait des commandes et c'est rigolo. Et puis elle dit, bah, va chercher les courses. Et puis on n'a même pas besoin de porter, ils mettent dans le coffre. C'est cool. Et donc pendant un mois, il est allé là-bas. Et Nicolas, il est surprenant parce qu'il lui en veut toujours plus. C'est bien. Voilà. À la base, un stage comme ça, vous faites un peu le boulot ingrat. Sauf que Nicolas, bah non, ça ne lui plaisait pas trop de faire le boulot ingrat. Donc il a commencé à faire les commandes, c'est bien de faire les commandes, il en a fait beaucoup, etc. Et puis il a changé de service, il est allé dans le frais ou je ne sais plus quoi. Donc il a une caille, il fait moins 12. Et ils ont tous des anoraks en plein été, ils sont comme ça. Et jusqu'au moment où, en tant que stagiaire, vous n'avez pas le droit d'aller aux voitures pour charger la voiture des clients. Sauf que Nicolas, il a dit, ben moi j'aimerais le faire ça. Et donc, eh ben, il a réussi à faire ça en tant que stagiaire, ce qui est une belle performance. Donc il a fait toutes les tâches du chronodrive. Et donc à la fin de son stage, est arrivé le moment où il a vu le responsable, et le responsable est venu et il l'a encensé. Je ne dis pas ça parce qu'il est là. Mais il l'a encensé en disant, voilà, on n'a jamais eu un stagiaire comme toi. Et moi, je suis fier de mon gars pour ça. On n'a jamais eu un stagiaire comme toi. Et donc, bah, stagiaire gratos, bah, vous travaillez, mais peanuts. D'accord? Bon, ils lui ont fait des petits cadeaux et machin, c'était sympa. Des bons chocolats, c'était bien, c'est moi qui les ai mangés. Jusqu'au moment où arrive le facteur, et puis il y a une enveloppe pour Nicolas. Et je vois par rapport à, vous savez, les enveloppes à deux fenêtres, souvent, bah, fiche de paye, quoi. D'accord? Et donc, je suis content. J'amène le courrier à Nicolas et je dis, bah, regarde, Chronodrive qui t'envoie ça, certainement une fiche de paye. Non, attends que je finis avant de dire waouh. Et Nicolas ouvre son enveloppe et voilà, fiche de paye, machin, montant. Et là, on a discuté, toute la famille, on s'est dit, mais c'est vache. Ouh, et il y a des petits mots d'oiseaux qui sont partis. Hein. Mais mon fils, sa première fiche de paye, je lui dis, mais garde-la, cette fiche de paye. Ta première fiche de paye, tu pourras dire à tes petits-enfants. Bon, je ne serai peut-être plus là. Donc, tes enfants déjà, comme ça, je serai toujours là, tu pourras leur dire. Moi, les enfants, eh ben, ma première fiche de paye, elle était à zéro. Et c'est vrai que des fois dans l'église, on reçoit des fiches de paye à zéro. Sauf que ça va bien plus loin que ça. Dieu, lui, note. Dieu note. Et Dieu, il dit, voilà, tiens, tel, ouh, c'est joli ce que tu as fait là. Tiens, ah, tu as passé beaucoup de temps dans la prière, je note. Tu as fait ceci, je note. Je note, je note. Ah, attention, on n'a pas un père fouettard hein, qui est en train de prendre des notes et qui a un gros calepin comme ça sur vous. Hein. Mais on a un Dieu qui, quand on va arriver là-haut, aura une fiche de paye qui sera bien plus importante que 0 euro. Oula, c'est petit les amen là. Je vais refaire. Je vais refaire. On a un Dieu qui, quand on va arriver devant lui, et qu'on aura fait tout le boulot qu'on aura voulu faire et qu'on aura eu envie de faire, il arrivera avec une fiche de paye qui sera bien plus haute que le 0 euro. Eh ouais. Allez, je vais terminer rapidos. Là, il faut que j'accélère à fond. Là. De toute façon, j'ai plus que 2 dias, donc c'est bien. Acte 6, 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Qui est-ce qui est capable de le dire, ça? Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Vas-y, clique une autre fois, Pierre, parce que là, j'ai mis un petit truc sympa. Regardez, ministère, diaconia. Le service, le ministère de ceux qui répondent aux besoins des autres. Ça veut dire que si tu as un voisin qui est à côté de toi et qui ne va pas bien, que tu l'aides et qu'il s'en sort, tu as exercé un ministère. Clique encore un coup. Diaconia veut dire tout simplement ministère, domestique, distribution, secours, message, don, assistance, service, servir. Servir. Voilà, c'est là où... La complétude, je crois que ça se dit, hein, la complétude, ou la totalité, ouais, on va dire comme ça, la totalité de l'Église, c'est comme ça qu'elle travaille. Parce que imaginez que ce matin, on est peut-être 60. Imaginez si tous les 60, on était là sur l'estrade en train de prêcher ce matin. Ce serait rigolo, hein. Mais en fait, on n'aurait personne devant qui écouterait. Non, on a besoin de pouvoir s'exhorter les uns les autres. C'est-à-dire que quand moi je vais descendre les strates, peut-être que certains vont venir me voir en me disant « Mais Fred, voilà, moi j'ai bien entendu et j'ai juste une question. » Ou alors il y en a qui vont me dire « Ben oui, mais je n'ai pas compris ce point-là, pourquoi tu as parlé de ça ?» etc. Et c'est là qu'on va commencer à s'édifier. Venez pas me voir pour me dire « Mais Fred, c'était rigolo ce matin. » Non, ce n'est pas le but. C'est pas le but. Vas-y Pierre. Colossiens 1, 25, dans la version Summer. C'est de cette Église que je suis devenu le serviteur, selon la responsabilité que Dieu m'a confiée à votre égard. Il m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude. Son serviteur, le serviteur. Là où je veux en venir ce matin, c'est que vraiment nous puissions tous avoir en tête que nous sommes une hélice. Alors peut-être qu'on est tous en train de se faire du vent pour se faire du frais. Non, c'est pas ça. C'est qu'on a tous une hélice qui est faite pour quelque chose de bien précis. D'accord. Ce matin, moi, si vous me demandez de jouer, bon, je joue du clavier, donc ou de la basse. Si vous me demandez de jouer de la trompette, je ne saurais pas faire. Pourquoi? Parce que j'ai jamais appris la trompette. D'accord. Si demain on te demande, qu'on vient de voir, en disant, on est dans l'équipe de ménage, on a besoin de quelqu'un parce qu'il nous manque du monde. Accepte de servir l'Église, parce que c'est ça. Vous savez, juste un témoignage, la semaine dernière, j'ai rempli 3 tâches. Là aussi, hein, ce n'est pas pour me gargariser, hein, ce n'est pas le but du tout. Hein. Lundi matin, j'étais à la prière, et j'ai passé donc la journée ici au phare. Et donc l'après-midi, le mardi, on a fait des travaux. Donc lundi matin, j'étais à la réunion de prière. Après, on a eu un moment pastoral avec Antoine. Et puis le mardi, j'ai fait des travaux à la maison. D'accord. Et ce matin, je prêche. Je fais 3 tâches complètement différentes les unes des autres. Prière, travaux dans l'église et prédication. Répondez pas à la question, mais quelle est la tâche la plus importante? Quelle a été ma tâche de cette semaine la plus importante? Est-ce que c'est le fait que je prêche aujourd'hui et que je vous exhorte? Est-ce que c'est le fait d'avoir prié pendant plus d'une heure lundi matin? Ou est-ce que c'est le fait d'avoir passé du temps pour faire des travaux à la maison qui est à côté, qu'on vient d'acheter? Et pourtant, je suis dans le service. Moi, je pense qu'à partir du moment où on est dans le service pour Dieu, peu importe la tâche que vous allez réaliser, ce que Dieu voit, c'est votre cœur et le cœur que vous y mettez. Ça aussi, on va mettre Fred Pouliquen. Ce que Dieu voit, c'est le cœur et le cœur que vous y mettez. Ouais, c'est beau, ça. Ce que Dieu voit, c'est le cœur que vous avez pour le service et le cœur que vous y mettez. Ouais. Fred Pouliquen, c'est moi. Allez, je termine. Parce qu'il est moins 10, ça va, je n'ai pas beaucoup dépassé. Hein. Ah ouais, pardon, là je me suis trompé. Ouais, il fallait absolument que je revienne dessus. Ah ouais, ça c'est. La semaine dernière, je vais encore déborder 2 minutes. Mais clairement, quand Antoine nous a prêché sur le principe d'être des adorateurs, eh ben ça, moi, c'est quelque chose qui me plaît. C'est quelque chose qui me plaît. Parce que quand on prend ce passage de Jean 4, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Je ne pouvais pas ne pas parler du service, je ne pouvais pas parler du principe d'être au travail dans l'Église sans forcément aborder ou revenir tout à l'heure quand je parlais du parallèle, mais de parler de ce qu'Antoine nous a partagé la semaine dernière, le principe d'être des adorateurs. Et le verset 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Et là, quand on parle d'esprit, c'est le pneuma. En grec, c'est pneuma. C'est un mouvement de l'air, un petit coup de vent, vous savez? Vous avez une petite brise qui est là, et puis vous savez, dans le silence, il y a Dieu qui est là et qui bouge et qui va venir visiter vos cœurs. Ça fait du bien, le pneuma. Et puis, dans le terme d'esprit, c'est le principe vital par lequel, pardon, le corps est animé. L'esprit rationnel, le pouvoir par lequel l'être humain ressent, pense, décide. Ressent, pense, décide. Un jour, je ferai une prédication sur ressent, pense, décide. Parce que c'est là où Dieu nous veut. C'est que quand on est dans un moment d'adoration avec Dieu, comme ce matin, on a eu des moments forts dans la louange et dans l'adoration, eh bien, si tu n'es pas à te dire, moi, à un moment, j'ai fermé mes yeux parce que je voyais les enfants qui bougeaient, ceci, cela, je voyais un tel qui arrivait, j'ai dit, il faut que je ferme les yeux, il faut que je m'écarte de tout ça, il faut absolument que je me mette dans la louange. Parce qu'il faut que je ressente, que je pense et que je décide. Il fallait que je me mette dans la louange. C'est une action que l'on fait. C'est notre esprit qui veut aller plus loin dans la louange. Vous savez, quand vous arrivez, clairement, je vais être obligé de le dire, mais quand vous arrivez en retard, quand vous arrivez en retard, vous nous dérangez. Ouais. Parce que vous dérangez tous ceux qui sont déjà dans la louange. Là, j'ai jeté un gros pavé dans la mare, là. Oula. Parce que la louange, c'est une intimité avec Dieu. C'est une intimité, mais c'est un collectif. D'accord? La louange, si vous êtes là seul, parmi une foule, vous allez devoir vous mettre dans la louange. Et c'est Chanel qui le dit souvent. Elle dit, moi, quand je suis dans la louange, je ne vois rien autour parce que je suis dans ma louange. Et elle a complètement raison. Elle dit, je suis dans ma louange et il peut se passer n'importe quoi autour, je ne vois rien. Pourquoi? Parce qu'elle est dans cette intimité avec Dieu. Mais son intimité faite et ou mise en commun avec l'intimité de son voisin et 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 de son voisin, eh bien fait un collectif et là on s'approche de Dieu. J'espère ne pas vous avoir choqué pour le retard. D'accord? On peut très bien avoir des principes ou des imprévus. Voilà. On peut avoir des imprévus, donc voilà. Ne m'en tenez pas rigueur. Je parle plutôt à ceux qui sont toujours en retard, mais bon. Donc c'est ça que Dieu veut. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La louange n'est pas le générique du film. La louange n'est pas le générique du culte. Et donc il faut absolument qu'on puisse être des adorateurs. Il faut que Dieu puisse là venir et il bouge. Il faut que Dieu puisse parler à ton cœur. Il faut que Dieu puisse te parler à tes oreilles. Parce que peut-être que toi, ton hélice, c'est d'écouter la voix de Dieu et de pouvoir partager à l'Église des prophéties, des paroles de connaissance, des parler en langue. Parce que Dieu veut absolument que tu puisses être en pleine conscience de ce qu'il a mis en toi. Dieu veut que tu puisses être conscient que Dieu travaille dans ton cœur. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Et en vérité, en vérité, en vérité. Allez, ma dernière diarrhée, j'arrête. Je suis réellement un homme quand mes sentiments, mes pensées et mes actes n'ont qu'une finalité, celle de la communauté et de son progrès. Et ça, on fait le parallèle avec l'Église. je suis réellement un chrétien ou un serviteur de Dieu, quand mes sentiments, mes pensées et mes actes n'ont qu'une finalité, celle de l'Église et de son progrès.